Aujourd'hui donc est un grand jour puisque nous avons une nouvelle chronique dans cette matinale, dans les yeux d'Elsa, et on n'a pas été chercher bien loin le titre puisque la chroniqueuse que nous aurons le plaisir de recevoir chaque semaine n'est autre qu'Elsa de la Cerda. Bonjour.
Bonjour Didier.
Merci infiniment d'être avec nous et d'avoir accepté de faire cette chronique toutes les semaines. Une chronique, on sait que vous êtes violoniste de votre état, vous travaillez dans les médias, dans les radios, Musique 3 pour ne pas les citer. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser au plus haut point, c'est le concours Reine-Elisabeth qui bat son plein et qui arrive presque à son terme, puisque si mes informations sont correctes, c'était les demi-finales le week-end dernier, je pense, c'est bien ça?
Alors, on est en plein demi-finale.
En pleine demi-finale.
On est en pleine demi-finale ce jeudi, mais on va savoir effectivement dans deux jours qui seront les
finalistes.
Alors, cette année, petite nouveauté, donc le concours, c'était toujours une centaine d'instrumentistes. Alors ça dépend des sessions. Hein. Vous savez que concours Reine-Elisabeth, il y a la session violon, la session chant, la session piano. Et puis plus récemment, à partir de 2017, il y a une nouvelle session qui est celle de violoncelle qui a été inaugurée. Cette année, c'est le piano. Donc d'habitude, on a une petite centaine de pianistes. Ils envoient des petites vidéos. Le jury les sélectionne. Ils sont invités. Et là, du coup, ils sont une soixantaine. Je pense même que dans les petites vidéos qu'on envoie, on peut aller jusqu'à 250. Vous imaginez le jury qui doit voir plus de 200 candidats. Ensuite, il y a 24 demi-finalistes et puis 12 finalistes. Cette année, eh bien, on a tout réduit à cause du Covid.
Bien sûr.
Mais ce qui est formidable, c'est que le concours a lieu. Et donc, il y a 12 demi-finalistes en ce moment et il y aura 6 finalistes en finale, et ça, on le saura samedi soir.
Bien, ben le piano, pour ce que j'en connais, moi, c'est le concours Reine-Elisabeth que je préfère. Je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, puisque vous êtes violoniste, je
c'est
le disais.
C'est pas grave, Didier,
mais
je m'en remettrai.
Ben, c'est vrai, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, pour le profane que je suis, et c'est rien de le dire, le concours Elisabeth, ça vient d'où? C'est né quand? Vous pouvez nous faire l'historique un petit peu?
Bien sûr. Alors, la reine Elisabeth était une violoniste amateur, vraiment passionnée de musique. Et je pense que ça remplissait vraiment toute sa vie. Elle vivait vraiment pour la musique. Et donc, on a eu, en tant que musicien, cette chance en Belgique d'avoir une reine qui voulait donner à la fois de son patrimoine, de son énergie et puis de sa stature de reine. Elle voulait vraiment patronner un concours. Et donc, elle a été voir Eugène Isaïe, grand violoniste belge. Et en 1937, eh bien, ce concours s'appelle le concours Eugène Isaïe. Et puis la guerre arrive, le concours est interrompu. Et suite à cela, la reine va décéder et le concours deviendra le concours Reine-Elisabeth. Il faut savoir que c'est un événement vraiment planétaire. Il faut savoir que toute la planète classique, de par le monde, parce qu'aujourd'hui il y a des candidats qui viennent véritablement du monde entier, tout le monde est branché, parce que avoir un prix ou être finaliste du concours Reine-Elisabeth, c'est un tremplin de carrière qui est absolument extraordinaire. Donc nous, notre petite Belgique est effectivement regardée, entendue par le monde entier. Donc ça, c'est assez exceptionnel comme événement.
Mais j'imagine, est-ce que c'est comparable, avec bien sûr tous les guillemets nécessaires, un petit peu à The Voice aujourd'hui, ou bien c'est vraiment une injure que de dire cela?
Non, je pense que c'est pas une injure. Après, il y a tout un protocole. Le concours a quelque chose de très mystérieux.
C'est vrai que c'est que qualitatif, j'imagine, le concours Reine-Elisabeth.
Dans
The Voice, il y a aussi un côté, le public choisit, etc. Donc, il y a un côté plus émotionnel, je dirais, en fonction des sympathies que certains attirent ou non. Tandis que dans le concours Reine-Elisabeth, c'est purement technique et artistique, je dirais.
Voilà, c'est technique et artistique. En fait, ces candidats, généralement, ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'ils préparent le concours. Ils ont un programme absolument colossal à monter avec des œuvres du grand répertoire. Ça va généralement de Bach à de la musique d'aujourd'hui. Ils arrivent, ils sont logés dans des familles, donc c'est assez émouvant parce qu'en fait il y a des familles qu'on retrouve d'année en année et qui se rappellent qu'il y a 20 ans ils ont eu tel candidat qui est arrivé soit de premier, soit de cinquième, enfin voilà, c'est aussi des histoires très humaines. On est dans une compétition extrêmement dure, très très dure, très très exigeante. Il y a un jury international.
Et est-ce que c'est standard, ou je dirais il y a des années ou des crus meilleurs que d'autres? Je veux dire par là, est-ce que le jury est toujours aussi difficile, ou bien ça devient de plus en plus compliqué de remporter le concours?
Alors la boutade en tant que journaliste pour avoir présenté 4 fois le concours, c'est de dire cette année le niveau est extraordinaire. Donc moi j'essaye de ne plus prononcer oui. cette phrase parce qu'elle devient vraiment galvaudée. Le niveau extraordinaire, le paysage aussi a changé, c'est-à-dire qu'on avait assisté pendant la guerre froide, en fait, il se jouait aussi une guerre froide au concours Reine-Élisabeth entre les Américains et les Russes. Aujourd'hui, par exemple, on a vraiment des artistes qui viennent d'Asie, oui, et c'est un phénomène absolument hallucinant. Donc on se retrouve, par exemple, là en ce moment, dans les 12 demi-finalistes, il y a 3 Russes, ça ils sont quand même toujours là, ils sont merveilleux, 3 Japonais, 2 Français, 1 Hollandais, 1 Chinois, 1 Coréenne et 1 Letton.
Plus de Belges.
Pas de Belges cette année, effectivement. Voilà, on espère en tout cas pour les prochaines sessions qu'il y en aura. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est une découverte aussi de ce qu'est la musique classique dans d'autres cultures. Puisque la musique classique, c'est une culture très européenne, évidemment. On joue du Mozart, du Bach, on joue des compositeurs italiens, allemands, scandinaves, aussi. Russes. Mais ça reste quand même très occidental.
Bien sûr.
Et donc c'est très très intéressant de voir comment s'emparent d'autres cultures que la nôtre et qui font merveille, qui sont notamment les Coréens, qui c'est un véritable phénomène en Corée, d'accord. la musique classique, les Japonais aussi, les Chinois, qui arrivent et qui nous éblouissent, vraiment, c'est étonnant.
D'accord. Et cette année, vous n'allez pas me dire le niveau est exceptionnel, mais vous qui en avez déjà vécu 4 en tant que consultante, vous diriez quoi cette année du niveau ?
Mais le niveau est extrêmement, extrêmement haut. On a vraiment, en fait, on a des jeunes qui sont au sommet de leur capacité, en tout cas technique. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que ce qui va être difficile, c'est l'après-concours. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont premiers au concours Reine-Élisabeth qui ne font pas carrière. Il y a des gens qui ne vont pas en finale et qui font une carrière extraordinaire. Après, ça dépend de la carrière qu'on va choisir. Est-ce que c'est soliste ? Est-ce que donc, vous jouez avec un orchestre, jouer en récital ? Est-ce que ça va être jouer avec d'autres ? Donc faire de la musique de chambre ?
Il faut essayer de démarcher, je suppose.
Voilà, exactement. Il y a tout l'après qui va être, voilà, sur quel agent on tombe, comment est-ce qu'on est entouré au niveau familial, quels sont les conseils qu'on reçoit, parce qu'en fait, c'est des tout jeunes, c'est des bébés.
Mais c'est quoi la moyenne d'âge, justement ? C'est
voilà,
intéressant.
Alors, c'est jusqu'à 30 ans, ils peuvent se présenter.
D'accord, donc il n'y a pas d'artiste au-dessus de 30 ans.
Pas d'artiste au-dessus de 30 ans, et avant, d'accord. la moyenne d'âge était à 27. Donc, ils l'ont un tout petit peu élargi ces dernières années, depuis je pense, 5-6 ans. Donc on a des tout jeunes musiciens. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a pour les avoir tous suivis une année hein, entre les 90 en première épreuve, les 24 puis les 12, je vous assure qu'à un moment donné oui. on devient un peu chèvre, et bien en fait des artistes, ceux qui dégagent une véritable émotion, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a aussi qui sont très, très formatés à jouer parfaitement et qui sont un peu des bêtes à notes. Donc, il faut aussi voir, et je pense que le public même, je pense à nos auditeurs de Judaïka, quand on suit ce concours, souvent, c'est le public qui a raison. Et on sent dans une salle, mm-hmm. quand c'est très applaudi, le public est vraiment le meilleur.
L'émotion,
oui,
enfin.
Le public est toujours un très, très bon jury.
Je me souviens, et je vous en parlais hors antenne, le souvenir le plus lointain que j'ai, qui est vraiment présent encore en moi, c'est la victoire, je pense, c'était Pierre-Alain Volonda, un Français, au piano, déjà. Et c'est vrai qu'il était en transe quand il jouait. Il était ailleurs, mais vraiment ailleurs, alors que d'autres étaient peut-être plus doués que lui techniquement, encore que, à mon avis, on doit pas être loin de la perfection pour le coup, mais il arrivait lui à interpréter un petit peu, comme des chanteurs qui ont une très belle voix et d'autres qui sont de très grands interprètes. Et j'imagine que là, il faut plutôt avoir les deux.
Oui, il faut avoir les deux. C'est vrai qu'ils se... Ils vont se révéler petit à petit. On a des personnalités comme Pierre-Alain Volonda, qui était une espèce de Asperger, type totalement autiste dans sa musique, qui dégageait quelque chose d'extraordinaire. Franck Bralet, autre pianiste qui a fait une très, très, très grande carrière. Il y en a d'autres. Il y en a qu'on oublie et pourtant on les a adorés pendant le concours. Donc, c'est extrêmement aléatoire. Ce qui est très particulier cette année, c'est que ce sera sans public. Donc, vraiment, j'invite les auditeurs à être sur leur poste de télévision, sur la 3, et puis bien sûr en radio, sur sur Musique 3 pour pouvoir suivre le concours, sachant qu'on n'aura pas le baromètre du public, qui est un baromètre essentiel pour moi.
J'imagine. Avant de se séparer, Elsa, et de se retrouver, pour mieux se retrouver la semaine prochaine, on peut donner peut-être les horaires. Il y a des horaires précis pour le concours?
Absolument.
En radio ou en télé?
Alors c'est 16h la séance de l'après-midi, 20h pour la séance du soir, et puis samedi ça va durer très longtemps puisqu'on va attendre les délibérations et on saura quels sont les 6 finalistes.
Et tout est retransmis?
Absolument.
En radio et en télé?
Et sur Ovio également, comme ça, même en différé, on peut tout suivre.
Donc c'est 16h et 20h, et samedi jusqu'à pas d'heure.
Exactement.
C'est ça. Merci beaucoup Elsa, à la semaine
Merci,
prochaine.
Didier.
Les yeux d'Elsa.
Voilà, c'était Elsa de la Cerda, bien sûr, dans cette nouvelle chronique que nous vous proposerons dorénavant tous les jeudis.